9h30 à Paris, 7h30 en temps universel. Merci d'écouter RFI. Et tout de suite, c'est le journal présenté par Xavier Besson.
Bonjour Andréane, bonjour à tous. L'actualité africaine et l'étau qui se resserre encore un peu plus autour de l'ancien président congolais Joseph Kabila. Alors que le ministre de la Justice dit avoir des preuves de son implication avec les rebelles de l'AFC M23, hier à Kinshasa, la justice militaire a demandé au Sénat de lever l'immunité parlementaire de l'ex-chef de l'État. Dans ce journal également, reportage à Madagascar à l'occasion du 1er mai. Fête du travail, journée internationale des travailleurs. Nous serons avec ceux qui seront tout de même à l'ouvrage en ce jour férié. Le Cameroun, avec des organisations d'observation électorale qui pâtissent de la fin des financements américains. Et le Kenya, avec le choc à Nairobi après qu'un député d'opposition a été abattu en pleine rue hier soir dans la capitale kényane. Que va donc répondre le Sénat à Kinshasa, la chambre haute de l'Assemblée congolaise, officiellement saisie hier par la justice militaire, alors que le ministre de la Justice entend poursuivre l'ancien président Joseph Kabila et dit avoir des preuves de son implication avec les rebelles de l'AFC M23 soutenus par le Rwanda et qui contrôlent désormais de larges pans des provinces du Nord et du Sud Kivu dans l'Est congolais. La justice militaire a donc saisi hier le Sénat, Joseph Kabila étant sénateur à vie, pour demander de lever son immunité judiciaire. Les proches de l'ancien président dénoncent de leur côté une manœuvre politique. Explication, Patient Ligoti.
C'est une série d'initiatives qui cible clairement Joseph Kabila, un acharnement selon son entourage. Mais pour le ministre de la Justice, Constant Mutamba, il ne s'agit pas de harcèlement. Il affirme que des preuves irréfutables ont été réunies contre l'ancien président, aujourd'hui sénateur à vie. Il l'accuse d'être impliqué dans les violences contre les civils dans l'est du pays et prévient « la justice ira jusqu'au bout, qu'il comparaisse ou non ». Et ce n'est pas tout. À RFI, le ministre a aussi confié que certains proches de Joseph Kabila seront visés par des poursuites avec saisie de biens et ouverture prochaine de procès. Cette offensive judiciaire s'inscrit dans un climat politique de plus en plus tendu. Il y a deux semaines, les autorités ont perquisitionné l'une des concessions de Joseph Kabila à Kinshasa pendant au moins 4 jours. La semaine dernière, son épouse Marie-Olive Lembe dénonçait la présence des militaires sur leur ferme familiale du Haut-Katanga. Elle parle de violations, de saisies et même d'abattage de bétail sur place. Dernier signal en date, le gouvernement a suspendu les activités du PPRD, le parti fondé par Joseph Kabila, sur tout le territoire. Autant des signaux qui traduisent une confrontation désormais ouverte entre le pouvoir actuel et l'ancien président.
Et à propos de l'Est congolais, des discussions sont toujours en cours entre le Rwanda et la RDC. À Doha, au Qatar, elles ont porté ces discussions hier, d'après le ministre qatarien des Affaires étrangères, sur la situation humanitaire de la région. Alors que Kigali et Kinshasa se sont donnés jusqu'à demain pour parvenir à un avant-projet d'accord de paix. Alors également que ces derniers jours, le M23 a poursuivi son avancée dans la province du Sud Kivu en s'emparant de la localité de Kaziba. C'est à une trentaine de kilomètres au sud de Bukavu, la capitale du Sud Kivu. La RDC, ou comme dans de nombreux pays à travers la planète, ce 1er mai, aujourd'hui, est un jour férié, fête du travail, journée internationale des travailleurs. En RDC, les syndicalistes ont de nombreuses revendications, et cela autant pour les travailleurs du privé que pour ceux du public. Écoutez Fidel Kiyangi, président de l'Intersyndicale nationale de l'administration publique et du secteur privé.
Mais la disparité, c'est criminel. Le député congolais a 21 000 dollars, mais l'huissier a aujourd'hui 80 dollars. Dans la scène de l'administration, vous avez un huissier d'un tel ministère qui a 240 000 francs congolais. De l'autre côté, vous trouvez un autre huissier, toujours dans l'administration, mais il a 7 millions. Toutes ces choses-là créent des frustrations. L'administration, c'est la colonne vertébrale d'un pays. Nous avons demandé que soit mis fin à l'existence des services de placement. L'entreprise où travaille l'agent débourse 800 dollars le mois pour le salaire de l'agent. Mais l'agent qui travaille, la société qu'il a placée là-bas lui donne 100 dollars ou 150 dollars. Les inspecteurs du travail qui vont dans des entreprises pour contrôler, mais puisqu'il est mal payé, on lui propose un pot de vin et sacrifie les travailleurs. Il y en a même qui sont soutenus par les gens de l'armée. Dès que l'inspecteur arrive, on lui dit « tu dois quitter là-bas, sinon on vient te prendre ».
Le syndicaliste congolais Fidel Kiangi. Mais que veut dire la fête du travail quand on vit au jour le jour? Illustration à Madagascar, où ce 1er mai est aussi un jour férié. Un pays, Madagascar, où 8 actifs sur 10 travaillent dans le secteur informel. Et pour eux, pas question de ne pas travailler ce jeudi. Reportage de Pauline Lotroquier à Antananarive.
Les mains rivées sur le guidon, une dizaine de conducteurs de vélo-taxi ont fait de ce trottoir leur station du moment. Les bonjours, Ange peut espérer tirer 10 000 arrières, soit 2 euros de ses courses. Agent de sécurité le week-end, il slalome entre les bus et les véhicules de la ville la semaine et place beaucoup d'espoir dans ce deux roues.
Le vélo, c'est mon patrimoine, alors j'y tiens vraiment. Comme l'État n'a pas de travail à nous offrir, on le crée nous-mêmes. D'ailleurs, l'argent que je gagne ici, je l'épargne pour investir plus tard dans un taxi moto et encore plus tard dans une voiture.
À même la rue, Émile code et manipule les smartphones les plus récents. Lui s'est lancé dans le déblocage mobile, un service qui permet de contourner les barrières d'utilisation imposées par des opérateurs mobiles. Ce travailleur s'est formé en ligne à l'aide de simples tutoriels.
Il ne faut rien attendre de l'État, car même avec un emploi formel, on n'arrive pas à joindre les deux bouts. Mais je pense que nous, malgaches, nous sommes forts, car nous sommes les champions de la débrouille.
Depuis le Covid-19 et ses effets dévastateurs sur l'emploi, le secteur informel n'a cessé de conforter sa place prédominante dans l'économie malgache, une dynamique que la municipalité tente de maîtriser à tout prix dans la capitale. Pauline Troquier, Antananarive, RFI.
RFI, 8h36, à Yaoundé, à quoi l'élection présidentielle camerounaise va-t-elle ressembler? Élection qui est prévue pour le mois d'octobre, on est plutôt en ce moment aux déclarations de candidature et à la préparation du scrutin, préparation donc perturbée par la politique américaine, par la suspension par Washington, par le président Donald Trump, des financements américains dédiés à l'aide extérieure, arrêt des financements qui touchent donc aussi la société civile camerounaise dans ses programmes de promotion de la démocratie et de surveillance électorale. Des organisations habituellement mobilisées en amont et durant le scrutin pour observer le vote de façon indépendante et qui aujourd'hui se retrouvent privées de moyens, nous explique Amélie Tullet.
Du jour au lendemain, des projets arrêtés pour l'organisation Un Monde à Venir, coordonnée par Philippe Nanga, la fin de l'aide américaine, c'est la perte du plus gros partenaire.
Nous avions un projet avec l'ambassade des États-Unis, qui était un projet de 65 000 dollars. On avait à peine démarré quelques semaines. On avait des animateurs qui devaient être déployés sur le terrain pour faire de la sensibilisation et l'éducation électorale. On avait prévu également l'observation électorale. Tout ça, c'est annulé.
Annulé aussi ce programme de formation préparé depuis des mois par l'équipe de Cyril Roland-Béchon, directrice de Nouveaux Droits de l'Homme Cameroun.
Nous n'allons pas pouvoir former les organisations locales sur le suivi du processus électoral, pas pouvoir renforcer les capacités institutionnelles pour que les organisations soient plus durables et plus efficaces. Quelque chose doit être fait. La société civile ne peut pas être mise hors jeu en ce moment de l'histoire de la démocratie au Cameroun.
Pour Philippe Nanga, il n'y a rien à attendre des autorités. Il faut à présent se tourner vers d'autres partenaires.
Si jamais il se trouve qu'il n'y a pas la possibilité pour la société civile de se déployer sur le terrain, il n'y aura pas un acteur pour pouvoir dire ce qui s'est passé. Je crains que finalement, on se trouve dans une situation où les gens se découragent de plus en plus et qu'il y a une participation faible et donc qui va aggraver la possibilité de conflit.
Code électoral décrié, résultats régulièrement contestés, la société civile camerounaise appelle le Canada et l'Union européenne notamment à la soutenir en cette année décisive.
Amélie Tullet, le satisfait site de l'Union africaine à propos du Gabon, à deux jours maintenant de l'investiture de Brice Clotaire Oligui Nguema en tant que président de la République. L'UA a estimé hier que la transition après le coup d'État de 2023 était globalement réussie et l'Union africaine a décidé de lever les sanctions prises contre Libreville au moment du coup d'État. Satisfaction du chef de l'État gabonais, il l'a dit sur son compte Facebook hier. Satisfaction aussi du ministre des Affaires étrangères, Michel Régis Onanga Ndiaye. Il avait fait le déplacement hier à Addis Abeba au siège de l'Union africaine.
C'est avec beaucoup d'honneur, de fierté et d'humilité que j'annonce au peuple gabonais, au nom du président de la République, chef de l'État, son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema, le retour du Gabon au sein de la grande famille africaine. Cette décision, de la plus grande importance pour notre pays, démontre l'adhésion de l'organisation africaine au processus électoral du 12 avril 2025. En réintégrant l'Union africaine, notre pays sera renoué avec les grands forums internationaux, notamment Union africaine-Corée du Sud, Union africaine-Japon, TICAD, Union africaine-Inde, et dans un avenir proche, l'Union africaine et l'Union européenne, puis les ACP à Bruxelles. Je saisis l'occasion pour réitérer nos remerciements à tous les États membres de l'Union africaine, à ceux de la CEAC qui ont accompagné le Gabon avec une bienveillance durant cette période de transition.
Michel Régis Onangandiaye, chef de la diplomatie du Gabon. Et si vous avez écouté notre journal de 6h30 heure de Libreville, vous avez remarqué que nous avions attribué cette interview par erreur à Herman Imongo, l'actuel ministre de l'Intérieur du Gabon. Dans l'actualité ce matin également, le Mali et le Conseil des ministres qui confirment la dissolution à venir des partis politiques. C'était l'une des recommandations des récentes consultations de la société civile malienne. On en reparle dans le prochain journal Afrique dans une heure. Et puis le choc au Kenya, où le président de l'Assemblée nationale dit même sa tristesse et où la police pense à une attaque préméditée. Hier soir, un député kényan a été abattu en pleine rue à Nairobi. Vincent Dublange, c'était en début de soirée dans la capitale.
Il est environ 7h30 du soir dans le centre de Nairobi. Charles Ongondo Were circule en voiture, conduite par son chauffeur. Selon des témoins cités par la presse, et notamment Citizen TV qui a révélé l'information, le véhicule du député est alors pris pour cible par deux hommes à moto. L'un d'eux descend et tire sur l'élu à bout portant. D'après The Nation, Charles Were est conduit à l'hôpital de la capitale kényane, mais il succombe à ses blessures. Le président de l'Assemblée nationale du Kenya évoque un choc profond, une tristesse indicible. Charles Were était membre du parti de Raila Odinga. Il était député d'une zone rurale de l'ouest du pays, non loin du lac Victoria. Le quotidien The Nation affirme que la direction des investigations criminelles a ouvert une enquête. Un proche du défunt évoque face à la presse une montée de la violence dans la politique locale du comté dont Charles Were était le député. Le responsable du crime est connu, ajoute cette proche, des déclarations qui demeurent encore à éclaircir ce jeudi matin.
À Nairobi, au Kenya, où il est maintenant 10h42 et vous êtes avec André Anne Mellard pour la suite d'RFI Matin.